wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Spino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Anthony Thomasson. Réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Pascaline Podevin, Mathilde Serrel et Christophe Comte. Sur nos platines, Assume Form de James Blake, Persona de Bertrand Belin, Remind Me Tomorrow de Sharon Van Etten. Et il y aura un coup de cœur signé Pascaline Podevin ce soir pour À Terre. C'est le cri lancé par O. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour le spectacle Névrotique Hôtel de Michel Faux. Place à gagner pour ce samedi 26 janvier à 20h dans le cadre de la journée genre et transgenre à la Criée Théâtre National de Marseille. Eh oui, Christophe,
c'est absurde.
C'est absurde. Écoutez, c'est votre anniversaire, nous voulions quand même souligner ce fait.
Ça arrive une fois par an, bah, merci.
Hein. Oui, parce que Pascaline Podevin, j'avais signalé votre anniversaire une quinzaine de fois dans l'émission. Donc Christophe, c'est aujourd'hui pour vous. Mathilde Serrel,
Christophe.
Il va falloir nous donner la date tout de suite pour
11 juillet.
On
a un souci.
C'est la grille d'été, comment on fait?
Vous m'enregistrez quelque chose.
Bon. Voilà, on voulait quand même souhaiter dignement cet anniversaire, Christophe.
Toujours cette version de Stevie Wonder. Là,
c'est celle que vous aimez. C'est celle que vous chantez
parfois.
Je peux
pas dire non, mais...
Est-ce qu'il y a une alternative, Christophe?
Pour l'an prochain, vous préférez quoi?
Il doit en exister, mais non. Il y a beaucoup de chansons de Noël, mais peu de chansons d'anniversaire. C'est bizarre. Mais...
Bon, on lance un appel, peut-être.
Je pense qu'il y a un créneau à prendre, surtout.
Bon, travaillez, parce que, bon, forcément, quelques critiques passent leur soirée d'anniversaire, enfin une heure en tout cas, dans la dispute. C'était le cas ce soir de Christophe Comte, il fallait que cela soit su.
Pour mes 25 ans, c'est ça.
Voilà, 25 ans, deux métiers, non, bien plus d'ailleurs. Bien plus.
Ouais, pas tant que ça, quand même.
Ah, quand même. Bon, je renvoie à votre compte Twitter pour calculer. On ouvre cette dispute tout de même, autrement que par cet anniversaire, bon, passons aux choses sérieuses, avec Assume Form, quatrième album de l'anglais James Blake, troisième dont on parle dans la dispute, ce qui commence aussi à faire beaucoup. Le musicien s'est installé à Los Angeles. Il s'est aussi installé durablement dans les hauteurs de la sphère musicale. Il a fêté, lui, ses 30 ans. Il a 30 ans aujourd'hui, comme vous, Christophe. Beaucoup d'invités dans ce nouvel album, de Travis Scott à André 3000, de Swae à Rosalia. Mais pour quel résultat? On va en parler après avoir écouté Tell Them avec Moses Sumney et Metro Boomin.
Turn the sacred time you steal.
C'est un extrait du nouvel album de James Blake qui s'appelle Assume Form, cet album. Alors, peut-être que les amateurs de James Blake seront surpris par ce morceau-là. Il y a pas mal de surprises, me semble-t-il, dans ce nouvel album. Et Christophe, ça, c'est votre anniversaire. Vous commencez, bien sûr.
Bon. Écoutez, par rapport à ce disque, j'ai une espèce de question un peu comme ça.
Allons-y.
Sur
ça doit être l'âge.
Oui, ça doit être l'âge, décidément. Et que je reposerai un peu plus tard pour un autre disque, c'est est-ce qu'on peut s'habituer à l'excellence ? C'est-à-dire, est-ce qu'au bout d'un moment, l'excellence, quand elle est aussi ostentatoire, est-ce qu'elle commence pas à devenir une formule dont on peut se lasser ? C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut qu'être admiratif de James Blake depuis ses débuts. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté au son contemporain. Mais d'album en album, on a l'impression quand même, même si effectivement la formule varie, qu'elle reste quand même une formule adaptée à une sorte d'esbrouf du son, mais du esbrouf un peu en retrait, c'est-à-dire de faux esbrouf, ou en tout cas de vrai esbrouf, mais masqué
minimal
derrière une sorte de paravent artistique très fort. Alors moi, par rapport à ce disque-là, je me pose la question parce que je l'ai beaucoup écouté et j'en ai pas retenu grand-chose, en fait. Alors, le seul morceau que je retiens à chaque fois, et c'est celui qui m'agresse le plus, c'est celui avec notre amie Rosalia, qui fait son comeback là d'un coup.
Barefoot in the park.
Voilà, et effectivement, il ressort. Il y a le morceau avec Travis Scott, enfin, il y a quelques morceaux comme ça très saillants, mais ce qui prime quand même chez James Blake, c'est son interprétation à lui, cette petite voix souffreteuse, un peu trafiquée, on a l'impression qu'il est dans un igloo. Et au départ, on avait cette image de quelqu'un comme ça qui apparaissait sur ses pochettes derrière un voile, qui était... Et puis petit à petit, là, sur la pochette de son nouvel album, il est très clair, plein pot presque. Et d'un coup, l'image s'est éclaircie petit à petit, il est devenu une star incontournable de la fabrication du son contemporain. Et donc, il arrive à se montrer, donc l'image se précise de plus en plus, mais est-ce qu'elle devient pas finalement, elle perd un peu de son mystère, elle perd un peu de cette gravité avec un côté très, très, très tactile de sa musique qu'on avait au début, et qui là devient forcément une formule qu'on a entendue chez d'autres, parce qu'il a quand même beaucoup produit ces dernières années. Et moi, je suis pas tellement surpris. J'aurais aimé que ce disque soit un petit peu plus incarné, qu'il soit incarné par lui d'une autre façon que par cette voix, par ces mélodies qui sont souvent un peu répétitives. Et je trouve qu'il n'y a pas une évolution, même si elle a l'air d'avoir lieu parce qu'il y a beaucoup de featuring. Il n'y a pas une évolution de style très forte. Et je me demande si cette musique qui correspond totalement à l'époque ne va pas finir par devenir assez ringarde, finalement, un peu comme l'était le trip-hop à un moment, comme étaient certains sons des années 90 qu'on avait adoré comme étant la musique du futur et qu'aujourd'hui on écoute en se disant qu'ils ne sont pas finalement une musique d'un futur antérieur qu'on n'a plus tellement envie d'écouter.
C'est pas old future, c'est old future.
Voilà, alors je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est un disque, c'est une tapisserie sonore tout à fait agréable et c'est un très bel objet. Mais j'ai envie d'entendre des choses parfois un peu plus surprenantes, surtout de la part de quelqu'un qui fait autant autorité.
Bon, Mathilde Serrel est tellement au taquet pour parler que je donne la parole à Pascaline Potvin, bien sûr.
Ça se passe toujours comme ça, je le sais depuis le CM2 et pourtant je recommence.
Pascaline, alors.
Non, mais moi je fais partie des gens qui ne sont pas forcément des immenses fans de James Blake, de manière surprenante. Je suis plutôt client de la musique de Sad Boy, comme on a souvent appelé James Blake en général. Mais lui m'a toujours un petit peu laissé à distance à cause de ce côté justement très éthéré, presque un petit peu précieux. Et là, y a quelque chose qui me séduit dans ce disque parce que justement, moi, je le trouve un peu plus incarné. C'est ce qu'il dit dans le disque, assume forme. C'est vraiment ça. C'est genre, j'assume enfin le fait de. Je suis un être de chair et de sang et c'est plutôt pas mal. Mmh. Et j'en prends plaisir. C'est la déclaration d'intention du tout premier titre qui s'appelle Assume forme lui aussi. Et je trouve que c'est un projet auquel il répond plutôt bien dans l'album. Pas partout. Moi, je trouve que les chansons comme celles qu'on a l'extrait, comme celui qu'on a entendu, un peu trap, comme ça, un peu hip-hop, c'est des choses qu'on a déjà vues chez lui. Effectivement, c'est une formule qui se répète, qui sait faire très très bien.
En même temps, c'est moi qui choisis le titre, donc ouais. Je suis un peu maso. En fait.
Non, mais ouais.
Moi, je l'aime
mais
beaucoup.
Mais c'est vrai qu'il s'est toujours servi comme ça du hip-hop, de la trap, des choses très très modernes pour ancrer, pour un peu amarrer sa musique très éthérée au sol. Donc moi, effectivement, ça ne me surprend pas. Je trouve pas que ce soit très intéressant. En revanche, il y a deux titres moi qui me plaisent énormément, qui sont beaucoup plus pop, où il laisse plus de liberté à son côté soul qu'il a toujours eu, mais qui laissait quand même dans un truc très sombre jusqu'ici. Il y a I Can't Believe the Way We Flow, qui est un espèce de doo-wop comme ça, complètement céleste, avec des chœurs qui se déploient dans une espèce de feu d'artifice au ralenti, comme ça, que je trouve très très beau. Et un autre titre qui s'appelle I'll Come Too, qui est plus vers la fin. Alors moi, ce titre, j'avoue, je suis en boucle dessus depuis vendredi, même avant, puisque j'avoue, j'ai eu l'album un petit peu avant sa sortie. Et moi, alors, I'll Come Too, j'ai l'impression d'être dans une comédie musicale 2.0. Je vois presque une scène à la Chanson sous la pluie, néo-chanson sous la pluie, voilà, c'est comme ça. C'est ouvertement une chanson d'amour, c'est presque une chanson d'amour naïve, chantée sourire aux lèvres, ce qui nous chante justement du sad boy qu'on connaissait jusqu'ici. Dans les arrangements, il y a la petite boîte à rythme moderne, des chœurs qui sont un peu Disney, presque, et des cordes qui s'envolent à la fin. Donc voilà, quelque chose de très ouvertement romantique et naïf, mais je trouve que ça lui va bien. Je suis contente de l'entendre comme ça. Et cette incarnation, du coup, ce James Blake qui... Parce qu'il parle beaucoup d'amour, hein, de manière très très ouverte dans tout le disque. Moi j'aime bien. Et alors je sais pas si c'est le meilleur compliment qu'on puisse
Attention.
Lui faire, mais j'ai pensé à Chris Martin et je me suis dit mais il doit être vert de jalousie d'entendre des chansons comme ça.
Je suis pas sûr non plus que ce soit le meilleur. Enfin bon.
Je suis pas sûr que ce soit le meilleur compliment, mais dans le sens où on est dans
Donc
une
c'est
musique.
C'est pas James Blunt.
Non mais voilà, on peut aller.
Une sorte de dérapage.
Non, mais
c'est la version.
Moi, je sais que c'est difficile aujourd'hui d'entendre des jeunes hommes qui font de belles chansons romantiques, qui soient pas niaises, qui soient pas mièvres. Enfin, Coldplay est tellement tombé là-dedans. Je ne compare pas James Blake à Coldplay, mais juste. Et là, ben voilà, j'ai quelqu'un qui fait cette chanson romantique complètement ouvertement joyeuse et amoureuse.
Et ça touche votre cœur.
Et ça touche mon petit cœur, j'avoue. Et j'aime bien cette nouvelle incarnation dans tous les sens du terme de James Blake.
Alors Mathilde Serrel a autant opiné aux critiques de Christophe Comte qu'aux louanges de Pascaline Potvin. Où vous situez-vous, Mathilde Serrel ?
Comment c'est possible ?
Il est temps de clarifier votre position.
Parce que d'abord, par rapport à ce que disait Christophe Comte, moi je suis tout à fait d'accord avec cette idée de tapisserie. Mais la tapisserie, ça peut être très intéressant justement comme travail. D'ailleurs, la tapisserie d'Aubusson, en ce moment, est en train de faire une révolution numérique. Travaille beaucoup avec le théâtre, etc. Et moi, au contraire, j'ai eu une sorte de tapisserie revisitée et ça m'a intéressé justement de voir comment au XXIe siècle on faisait ce tissage sonore. Et je trouve l'artisanat d'une splendeur incroyable. Dans les titres dont parlait Pascaline, Can't Believe the Way We Flow, en fait, ce qui est très intéressant, c'est au lieu d'aller la façon dont on construisait justement les tapisseries sonores jusqu'ici, qui étaient entre autres les samples dans la culture hip-hop, c'était d'aller chercher voilà une grande amplitude mélodique et évidemment de s'amarrer et de propulser comme ça le titre avec une mélodie qui allait tourner comme ça de façon entêtante pour l'auditeur. Là, en fait, il prend des voix totalement dissonantes, c'est-à-dire qu'il découpe les samples, il les hache menu, il les fait résonner, il les fait presque frire, et puis ensuite, il nous les projette en boucle comme des chœurs reconstitués. Moi, j'ai l'impression, en fait, d'avoir une sorte d'ordinateur, on va dire, d'intelligence artificielle à l'œuvre. L'intelligence artificielle, elle procède exactement comme ça, c'est-à-dire qu'elle découpe en une infinité, en fait, de morceaux, un style musical ou un style pictural, et ensuite, elle va proposer des variations aléatoires de l'œuvre et des nouvelles œuvres aléatoires. Et finalement, j'ai l'impression que c'est l'humain qui fait presque aussi bien que la machine d'intelligence artificielle, et même mieux. Donc moi, c'est ça que je vois, c'est une tapisserie humaine et totalement 21e siècle et loin devant l'intelligence artificielle. Moi, donc c'est pour ça que je plussois à ce que dit Christophe, mais dans le bon sens du terme. Et je suis totalement d'accord avec cette comédie romantique, ce Jacques Demy. Moi, j'ai entendu aussi avec I'll Come To et ses violons qui s'envolent. J'ai adoré Power One aussi, avec sa texture aquatique. J'aime beaucoup la petite berceuse pour Insomniaque, que chacun pourra écouter. Lullaby for Insomniac, juste voix, cordes, orchestre, et une chorale, cette fois-ci, qui n'est pas une chorale de machine. C'est intéressant, on dit, de voir quand est-ce qu'on est sur des voix de machine ou sur des voix, on va dire, organiques. Et donc, on ne sait jamais vraiment à qui on a affaire. Donc, ça donne une atmosphère fantomatique. Moi, je trouve que c'est un disque chef-d'œuvre. Et c'est vrai que c'est épuisant de dire à quel point James Blake réussit son affaire à chaque fois. Mais il a évidemment influencé tout le monde. Là, je crois qu'il cherche lui-même une sorte, effectivement, de personnalité à l'intérieur. Et on la trouve, à mon avis, effectivement, précisément sur les titres les plus intimes, comme ce I'll Come To, comme ce Power Man, comme ce Don't Miss It. Et enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose du Conan Mocassin que j'ai adoré cette année aussi dans ce disque. Et ils ont une sorte de gémellité comme ça. Je sais pas, il y aurait un dauphin et une licorne, peut-être.
Un dauphin, une licorne. Alors moi, je suis moins calé en James Blake, hein, pas Blunt, que vous, parce que moi j'écoute ces disques toujours avec plaisir, mais ce sont pas les disques que je réécoute forcément, enfin il y a quelques morceaux de ci, de là, et c'est peut-être pour ça aussi que m'est assemblé ce disque-là était assez surprenant de part notamment ses featuring. Et alors moi j'attendais évidemment beaucoup celui de Rosalia, et c'est celui qui me déçoit le plus, à vrai dire, et je préfère le vieux André 3000, parce qu'il se passe plus de choses, que ça frotte, il y a quelque chose qui est une collision et une rencontre plutôt qui aboutit à quelque chose, alors que Rosalia, j'ai l'impression que la rencontre s'est pas vraiment faite. Bon, ça c'est un sentiment tout à fait personnel, mais on parlait de pochettes et de photos et de textes, il faut voir quand même que dans l'album, le vrai, il n'y a pas de livret, mais il y a une sorte de mini poster de James Blake en beau gosse. Franchement, j'aurais préféré avoir les paroles. Je trouve ça quand même un peu fort de nous priver des textes de ce garçon triste, parce que je traduis.
C'est clair en même temps.
Non,
moi, je trouve que quand même. Pas très fort les textes en revanche.
Non, mais c'est peut-être pour ça qu'ils n'y sont pas. Ouais. Mais après, on peut les retrouver. On peut les trouver ailleurs. Moi, je trouve ça curieux. Oui, mais c'est curieux quand même d'être quand même à ce point dans l'écriture sonore et de mettre les paroles de côté. Je trouve ça un peu étrange. Christophe Comte, petit mot encore ?
Non,
pas mieux.
Non, je vais réécouter le morceau Jacques Demy, là, ça m'intrigue, parce que j'ai beaucoup aimé la fin, là-bas, Insomniac, je trouve assez beau et très efficace pour le coup. Non pas parce qu'on s'endort, mais il y a quand même un effet hypnotique qui agit. Mais bon, je reste quand même un peu sur ma faim, moi, sur le James.
Dernier mot, Mathilde Serène.
Non, c'est un conseil d'écoute pour les auditeurs. Essayez de mettre James Blake par-dessus une autre musique. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que vous ouvrez sur votre ordinateur, voilà, par exemple, la série sur Deezer, sur SoundCloud, sur ce que vous voulez, des titres de James Blake ou sur votre iTunes, etc. Et vous démarrez un autre album en même temps. Vous allez voir, en fait, ça peut.
Mais quoi se, Metallica.
Bah, j'ai essayé, par exemple, avec Bertrand Belin. J'ai mélangé les deux. Ah. On va écouter tout à l'heure. Mais c'est absolument génial. C'est-à-dire que c'est un remix un générateur de remix automatique.
C'est génial.
Ça met, ça peut se glisser.
Savez qu'on va essayer de le faire.
Dans n'importe quelle mélodie, dans n'importe quelle structure. C'est une hyperstructure en fait, James Blake. Et on l'ajoute à une autre mélodie, une autre voix, et ça marche instantanément.
Bon, je vais pas demander à quelle heure, dans quelles conditions vous avez fait cette expérience, Mathilde Serrel. Ça ne nous regarde pas.
Je sais pas pourquoi j'ai essayé, mais ça marche.
Dernier mot, alors vraiment.
Non, une question que je me suis posée en faisant mes recherches sur le 10. Le 10 s'appelle Assume Forme, et c'est précisément une formule qu'avait employée le critique Mark Fisher, un grand critique et philosophe anglais qui s'est suicidé il y a un an, dont notre collègue Olivier Lam avait beaucoup parlé dans un épisode précédent de La Dispute. C'est précisément les mots qu'avait employé Mark Fisher pour parler de James Blake lors de son premier album, je crois. Du coup, je me suis demandé si c'était un hommage.
On imagine que oui.
On imagine que oui.
On va appeler Olivier Lam, non ?
Alors,
appelez-moi
peut-être
Olivier Lam.
Olivier Lam le saura-t-il, mais j'ai pas vu l'interview, j'ai rien vu, mais j'aimerais le savoir. Je serais curieuse de le savoir parce que si c'était le cas, je trouverais ça assez beau.
Encore une question. Alors, on a la question sur les chansons d'anniversaire. On a la question sur le titre de l'album de James Blake. Vous n'hésitez pas à nous répondre sur les différents réseaux sociaux.
3615 France Culture.
Voilà, 3615 aussi.
Qu'est-ce qu'on fait gagner ?
Assume Forme de James Blake qui sera en concert. Alors j'ai vu une date à Lyon le 29 mai, à Nîmes le 31 mai. Pas de date parisienne ?
Pour l'instant, non.
Il se fait désirer.
Ah, voilà.
Après ce que vous venez de dire. Peut-être qu'il va jouer avec, sur la même scène que Bertrand Belin, ils vont jouer tous les deux en même temps leurs albums.
Vous savez que je suis un petit peu...
Je me souviens d'un concert à la Philharmonie où je m'étais assez ennuyé.
Bon.
Donc ça me revient là, d'un coup j'avais un peu oublié, puis je revois ce concert et finalement... Ouais.
Bon, James Blake, on en vient d'en parler. À suivre, Bertrand Belin, Sharon Van Etten et Oh !
La Dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute musique avec le nouvel album donc de Bertrand Belin, il s'appelle Persona, on devine pourquoi. C'est son 6e album qui paraît en même temps que son 3e roman, Grand Carnivore, chez POL. Mais comme on est mardi, c'est l'émission musique, donc on écoute tout de suite Grand Duc. Le hibou, c'est ça la suite. Pascaline Potvin qui commence à nous parler de ce disque de Bertrand Belin, Persona.
Alors, moi, Bertrand Belin me frappe toujours parce que ce que j'aime dans sa musique, c'est que je trouve qu'elle s'apparente à de la sculpture. J'ai vraiment l'impression d'un truc physique quand je l'entends. C'est une musique qui va beaucoup aller à l'économie. Bertrand Belin, j'ai l'impression qu'elle s'en rabotée, sculptée. Il enlève plus qu'il ne rajoute. Et c'est une musique de l'épure. On retrouve ça dans Persona. Mais il ajoute de nouvelles choses quand même, quoi. Il ajoute de nouveaux outils et de nouvelles formes. Parmi les outils, il y a les synthés un peu new wave, là, comme celui qu'on a entendu sur Grand Duc. Et dans forme, en termes de forme, il y a des nouveaux formats. Un côté un peu kraut, un peu chanson dronesque, j'appellerais ça comme ça, qui lui va assez bien, qui vient, je pense, en écho à son travail avec les Liminianas. Il était sur une chanson de l'album des Liminianas cette année. Et je trouve que ça lui va assez bien. Je trouve que Grand Duc, qu'on vient d'écouter, est un bon exemple de ça, parce qu'il a toujours beaucoup travaillé comme ça sur la répétition, sur le côté assez hypnotique. Donc ça lui va bien. Il y a un côté aussi beaucoup plus ouvertement pop. Une chanson comme Glisser Redresser, qui tient sur deux accords et qui, à la fin, s'ouvre sur une modulation, un demi-ton qui, hop, fait entrer la lumière. Et ça, c'est un truc très pop qu'il avait jamais fait avant. Il y a Les Nuits Bleues, qui est un titre yéyé, assez groovy, assez sexy, où il arrive quand même à rendre le mot chouka sexy, fallait le faire quand même. On parle d'une corneille, faut y aller. D'ailleurs, il y a beaucoup d'oiseaux dans le disque. Moi, j'aime beaucoup ça, j'aime bien les oiseaux. Et j'ai bien aimé cette poésie animalière. Le disque est parsemé comme ça, il y a un bec. Il y a des choucas, des dindons, des pigeons. Voilà. Parce que finalement.
L'envie de nature, finalement, Pascaline.
Mais non, j'aime bien les oiseaux. J'aime beaucoup les oiseaux.
Et. Une envie de montagne, peut-être.
Non, les oiseaux. Mais du coup, j'en viens à ce qu'on aime surtout. Enfin, moi, ce que j'aime chez Bertrand Belin, c'est sa poésie, ses textes qui font comme ça naître des images. J'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans les textes sur cet album-là. Les albums précédents, notamment Parc, qui était l'avant-dernier, m'avaient vraiment séduit tout de suite. Les textes, il y avait de l'humour, il y avait un truc très mordant. Là, il m'a fallu plusieurs écoutes pour aller au-delà d'une première impression, d'un truc un peu flou. Et une fois écouté les textes, ça m'a accroché, en fait. Il y a toujours cet art qu'il a de la vignette, en fait. Une chanson comme Bronze, où il nous décrit un parc avec ses statues de bronze et un sans-abri. On s'y trouve tout de suite. Il y a à l'opéra, où on est vraiment dans un opéra, il y a presque un côté balzacien. Et ces chansons, là, il va sur autre chose qu'on connaissait pas, qui sont des chansons un peu politiques. Camarade, qui parle du travail. Grand Duc, en fait. Alors, j'avoue, j'avais pas vu au début, mais il m'en a parlé. C'est une chanson sur, il se met dans la peau d'un sans-abri, en fait, qui est au niveau d'un distributeur d'argent automatique et qui voit les choses différemment qu'un autre point de vue. Et en rend à la fin sur la foule. Donc voilà, en fait, une fois que j'ai vu toutes ces images, le côté peut-être un peu froid classé comme ça de l'album, j'ai l'impression que si on reparle de sculpture, de me balader dans une pièce avec des formes un peu abstraites, à force de tourner autour, je les distingue davantage et je les aime bien. Donc
bon,
voilà.
Premier propos de Mathilde Serrel sur cet album de Bertrand Belin, Persona.
Le premier propos de Mathilde Serrel. Ouais. Moi, j'avais pensé que c'était à l'inverse de James Blake. En fait, alors peut-être parce que j'ai fait cette commutation entre les deux albums et j'ai superposé les textures, je suis allée peut-être trop loin.
Vous l'avez écouté seul aussi, rassurez-nous, Bertrand Belin.
Voilà, je l'ai écouté aussi tout seul, mais bon. Il m'a semblé qu'il faisait un chemin inverse, c'est-à-dire que les voix ne sont pas modifiées par les machines, mais il modifie sa voix comme si elle était modifiée par une machine. Je ne sais pas si je me laisse bien entendre. C'est-à-dire que je trouve qu'il joue extrêmement bien avec ce qu'il peut donner en texture, et en fait c'est un chant qui n'est pas modifié par les machines, c'est un chant qui est modifié uniquement par lui, par les intonations qu'il donne. Et pour moi, voilà, il y a quelque chose du lettrisme, il y a vraiment un travail, je trouve, dans la texture des sons, comme si c'était retravaillé, mais c'est retravaillé par l'humain. Donc j'ai pensé à ce trajet inverse et j'ai trouvé ça très intéressant, puisque effectivement, comme il est à la fois romancier et auteur-compositeur, c'est intéressant de voir, comme Dominica un petit peu, où est-ce qu'il explore sur le plan sonore et qu'est-ce qu'il garde pour la littérature. Après, moi, j'ai adoré le Camarade. Genre, vraiment, en plus, le disque arrive, je ne sais plus à quel acte on était des Gilets jaunes.
Mais ça va être 11 parce qu'il sort que vendredi.
Ah oui, voilà. Pardon, mais je l'ai écouté un petit peu en amont. Et du coup, c'est vrai que Camarade, c'est très simple dans les textes. Mais alors, c'est tellement vrai. J'ai travaillé à travailler pour un travail. J'ai travaillé à travailler dans un travail. Et cette espèce de litanie du travail pour le travail, d'un horizon dont rien n'accouchera finalement de plus grand, de meilleur, de réconfortant, etc. J'ai trouvé que c'était peut-être le meilleur hymne qu'on pouvait faire et une très bonne réponse à ce qui peut être aujourd'hui une chanson politique, une chanson engagée, mais qui ne soit pas les lourdeurs argumentatives, qui respire pas non plus la grande fête de punk à chien, etc. C'est incroyable de se tenir aussi bien. Ça m'a fait penser aux Villars qui sont sortis chez La Souterraine, qui avaient réussi à faire un titre comme ça sur la démission. Et je trouve que voilà, il y a cette force-là et c'est très bachungien, à mon sens, comme disque. Et par ailleurs, je dis au passage bravo à ce label 5-7. Je trouve qu'il est en train de faire une sorte d'école de la nouvelle chanson française. À un moment, ça a été tôt ou tard. On se souvient, il y avait beaucoup de signatures. Et là, chez 5-7, Catherine, Malik Majoudi, certains titres de Babik, c'est maintenant cet album de Bertrand Belin. Et puis, il faut rappeler que Persona, le film de Bergman, c'est comme la scène d'un personnage qui perd sa voix. Et c'est très intéressant d'avoir recherché la voix manquante, peut-être. Donc, pour moi, c'est un très beau projet.
Dans les starting blocks, Christophe Comte, pour parler de Bertrand Belin.
Oui, alors, peut-on s'habituer à l'excellence volume 2
D'accord.
C'est ça. Et j'ai eu un peu cette appréhension en écoutant ce nouvel album de Bertrand Belin. Parce que, au fil du temps, je dois bien avouer, j'aime beaucoup Bertrand Belin, je suis très admiratif à la fois de son personnage, de ce guitariste qui est quand même incroyable, de ce parolier dont je ne comprends à peu près rien, mais que je trouve très puissant. Et puis, je me suis dit, est-ce qu'on va être encore dans la reproduction, finalement, toujours cette petite mécanique de Bertrand Belin, ses chansons qui tournent parfois sur deux, trois choses qui se bousculent et qui finalement nous entraînent dans une sorte d'hypnose. Est-ce que ça allait être à nouveau ça? Alors, je dirais oui, un peu quand même, en l'écoutant. On est quand même en terrain assez reconnaissable. Hein. Il n'y a pas de fracture par rapport à ce qu'il a fait précédemment. J'ai trouvé peut-être effectivement qu'il s'ouvrait un peu plus, qu'il y avait peut-être un peu plus par moment de respiration. Alors sa voix, que Mathilde a très bien décrite, elle est quand même un peu particulière. Enfin, elle a un côté comme ça, très très, une articulation qui est pas commune, mais qui moi pouvait à un moment m'agacer. C'est-à-dire que je rentrais dans ses disques en me disant, il va y avoir encore cette espèce de truc où il va nous parler tout doucement avec une voix qui va se briser, et en même temps une voix très forte, très puissante, mais qui s'éteint progressivement à la fin des phrases. Enfin, c'est très bizarre cette manière d'articuler. Et finalement, je trouve que ce disque resplendit un peu de l'intérieur grâce à des arrangements très étonnants qui parviennent comme ça de manière sournoise. Il y a une vraie... Enfin, à l'intérieur de chansons classiques, il y a une sorte de prise de pouvoir comme ça, une sorte de magie. Alors, je ne sais pas comment il travaille. C'est pas quelqu'un qui va avec des grands producteurs, qui va se faire remixer comme ça. Non, il travaille en petite équipe. Et je trouve ce disque assez puissant, assez remarquable, assez effectivement très bachung, mais il l'a toujours été plus ou moins. Le reproche peut-être que je ferai à Bertrand Belin, mais c'est plus en termes de stratégie de carrière, c'est de se dire que ce garçon qui a un talent immense va rester confiné quand même dans une frange assez underground d'un auditoire qui n'arrivera jamais justement à faire ce qu'a fait Bachung. Voilà, je souhaite qu'il y arrive, mais à faire des tubes. Mmh. Parce qu'il en avait à un moment, j'étais jury dans un prix des éditeurs il y a plusieurs années, et il avait eu le premier de ses prix. Et on s'était parlé comme ça avec sa productrice à l'époque. Je lui disais, oui, c'est très bien d'être encensé par le métier, mais est-ce qu'à un moment, ce garçon va percer la couche et arriver à faire qu'une chanson, comme Bachung a pu le faire, touche le grand public. Parce que c'est ça aussi le but à un moment. Parce que sinon, on a un chanteur de MJC, on
comme
est dans
Philippe
des salles.
Catherine a pu le faire aussi.
Comme Philippe Catherine, comme même Dominica. Ouais. Beaucoup de gens, à un moment, où une chanson. Et Bertrand Belin, il reste à la frontière de ça. Il a un public je pense, très fidèle. Mais il n'arrive pas à percer. Et je pense pas que ce disque lui permette de le faire. Je le souhaite, mais j'aimerais à un moment le voir. Et c'est pour ça que son featuring avec les Liminianas était pas mal.
Parce extraordinaire.
Qu'il y avait peut-être là une possibilité. Mais en même temps, c'est un peu inhérent à son interprétation dont je parlais, à cette voix assez particulière qui peut faire qu'il restera toujours comme Gérard Manset, un éternel...
Manset a eu ses tubes, lui.
Ouais, enfin au début,
au
tout début, mais après il en a plus pendant 50 ans. Et il y avait ce côté comme ça, il avait un public, tout le monde le respectait, mais il n'arrivait jamais à percer cette frontière. Et bon, je trouve ça dommage parce que je pense que Belin, pour le coup, a un profil de chanteur qui pourrait offrir une alternative à la chanson française et de manière assez fracassante et puissante parce qu'il a ce côté très martial dans son travail qui peut lui permettre ça en tout cas.
Bon, je ne ferai pas de bémol parce que je vois que le temps file quand même, qu'il nous reste du... Non, mais j'ai eu un vrai problème, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est Yves Montand qui chante.
Moi aussi, et là,
j'étais foutu. Parce
non,
que...
mais parce que moi, qu'il a repris à bicyclette.
Ah ben oui, mais ça,
c'est vrai.
Je savais pas.
Il a repris à bicyclette.
Mais à un moment donné, il y a eu une sorte de filtre devant...
Moi, je déteste la voix d'Yves Montand.
Mais moi aussi. Et donc, du coup, ça a été très compliqué de continuer à écouter cet album.
Mieux, c'est Yves Montand, mais dans les guignols. Il chantait des publicités.
Oui, c'est vrai. Tous les jingles, oui.
J'ai découvert cette reprise il y a un mois. Et du coup, en écoutant le disque, oui, c'est, voilà. C'est venu. Mais ça m'a pas
plu. Le tribute à Sarah.
Bon, pour le reste.
C'est ça, voilà.
Pour le reste, je vous rejoins. Allez. Persona de Bertrand Belin chez 5-7. Effectivement, une grande tournée débute. Alors, le disque sort vendredi, 25 janvier. La tournée débutera un mois plus tard, le 26 février. Au Havre, elle s'achèvera le 25 mai à Brest. Entre-temps, il y aura beaucoup de villes. Il y aura l'Olympia, notamment à Paris, le 11 avril. Il y aura Rouen, Nancy, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Sainte-Clotilde, Besançon, Brest. Enfin bref, j'en passe. Et des meilleurs. Et puis Bertrand Belin signe également Grand Carnivore, troisième roman chez POL, en librairie lui aussi vendredi. Et ce jour-là, ce qui tombe bien, il sera l'invité d'Olivia Gesbert dans la Grande Talme sur France Culture à midi. C'est l'heure du coup de cœur, un coup de cœur de Pascaline Potdevin pour un disque qui s'appelle « À terre » avec un point d'exclamation, donc enfin, je crie un petit peu, mais « À terre !» de O, c'est chez Vietnam Label, et je ne sais rien, parce que je n'ai même pas écouté l'extrait que nous allons entendre maintenant.
Et j'enfouis ma tête dans ton ventre mou, au cœur de la bête. En flou, je disparais net, au fond je m'en fous. Tout doit disparaître, mais si tu patientes, je prendrai racine. L'arbre dans la ville, il est plus solide que le building qui lui fait face. Je suis l'arbre fleur, je veux ton bonheur, mais je sens que je...
Mais de quoi s'agit-il? Bon, on s'interroge un peu sur les paroles. Découvrons, à Baptiste Serré et moi, nous sommes un peu choqués.
Un ventre mou.
Christophe Comte, lui, a l'âge d'entendre des choses pareilles. De quoi s'agit-il?
Célébrer un ventre mou, c'est très bien. De quoi s'agit-il? Il s'agit de O.
De quelle façon?
Il s'agit de O, de son vrai nom, Olivier Marguerite. Donc O qui n'a décidément pas envie qu'on le retrouve sur Google, vu ce pseudo. Olivier Marguerite, c'est quelqu'un qui est resté... un peu longtemps plus ou moins caché dans la scène pop indie française, parce qu'il a joué avec Mina Tindall, Alomo, Los Chicos, Sid Matters, tous ces gens un peu qui animent la scène indie française. Il est sorti de l'ombre il y a 2 ans avec un premier album qui s'appelait Un torrent la boue, un album de pop ouvragé un peu aquatique avec des longues envolées, des contours un peu flous mais très très beaux. Il a aussi écrit la musique d'un film Diamant noir de Arthur Harari qui est sorti cette année, je crois.
Excellent.
De 2 ans. Voilà. Épouvantable nanar. Ouais.
Ah bon, ah, je n'ai pas vu.
Non mais c'est la dispute, voilà.
J'avoue. Et là donc c'est un deuxième album qui s'appelle donc À terre, qui est un cran en dessus, dans le savoir-faire en termes de songwriting. Il a voulu faire un album de musicien avec un son extrême presque à l'ancienne apporté aux mélodies et c'est complètement réussi. C'est un album qui regorge de grilles harmoniques qui vont vers la lumière, de chœurs célestes, pop, tous ces accords un peu bizarres qui vous font comme un frisson quand vous les entendez. L'extrait qu'on a entendu et que j'ai choisi est vraiment très symptomatique de ça. Hop, d'un seul coup, ouh, y a un accord qui arrive et on frissonne, c'est très agréable. Et c'est un album très très Beatlesien aussi. On a entendu McCartney un peu partout. Et donc, j'avoue, un petit peu du Laurent Voulzy aussi, puisque c'est chanté en français. Laurent Voulzy, grand fan de Paul McCartney, on peut pas éviter, mais pourquoi pas.
Et aussi.
Du John Lennon aussi sur un titre qui s'appelle Ensablé, qui est un hommage, à mon sens, pas du tout déguisé. Mais j'ai aussi pensé à son fils, à Sean Lennon, qui avait sorti un chef-d'œuvre en 2006, Friendly Fire, qui était aussi un magnifique album de pop. De cette pop comme ça, très belle, très gracieuse, avec un cœur un peu, quelque chose d'un peu pourri à l'intérieur, comme une fleur fanée, un fruit un peu moisi. Et à terre, il y a de ça dans À Terre, parce que c'est un album qui parle de rupture amoureuse, qui parle de chute, donc il y a quelque chose de très triste. Et d'ailleurs, tous les textes comme ça parlent d'intranquillité, de fébrilité, d'hésitation, de jalousie, de doute. C'est traduit par les batteries qui sont très nerveuses, très fébriles, qui répondent parfaitement à cette grâce. Et donc tout ça culmine justement sur un titre qui paradoxalement s'appelle Chute libre, où il parle en français de son intranquillité, des cœurs de filles qui lui répondent. C'est hyper beau, c'est complètement angélique, complètement sophistiqué et en même temps très évident. Donc ça nous retourne complètement, ça nous met en haut, ça nous met à terre. Et c'est exactement, je crois, l'effet qu'il escomptait.
Nouvel album À Terre, il sort lui le 1er février. Il faut attendre un petit peu pour découvrir cet album de haut chez Vietnam Because. Et puis il sera en concert au FGO à Paris le 28 mars.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Et le dernier disque au sommaire de cette dispute, c'est Remind Me Tomorrow de Sharon Van Etten chez Jacques Jaguar. Et 5 ans déjà qu'on attendait aussi un nouvel album de cette auteure, compositrice, interprète américaine. Elle a 37 ans, elle interroge ses souvenirs en 10 plages, comme une autobiographie musicale, ne manquera pas de dire certainement Mathilde Serrel. Elle est devenue entre-temps, entre les deux albums, comédienne, maman aussi, ce qui n'est pas tout à fait rien, elle a beaucoup à nous raconter. On écoute tout de suite 17.
Let us stray.
Ah, si les micros étaient ouverts pendant les disputes musique. Vraiment, tout ce qui se dit dans la dispute reste à la dispute.
Exactement.
Hein, Mathilde Serren, on était là pour parler de Sharon Van Etten, je crois.
Ah, un peu de testostérone.
Enfin,
dans cette émission, grâce à Sharon Van Etten.
Le disque est sorti.
Le disque est sorti, ça c'est bon. Janvier. Je ne l'ai pas mélangé avec James Blake parce que je l'ai trouvé déjà très chargé. Donc, je n'ai pas pensé que c'était intéressant de superposer avec la structure de James Blake. Ce qu'on a entendu, c'est peut-être ce que je déteste le plus dans ce disque. Mais du coup, c'est bien de pouvoir le dire. Toute la partie un peu London grammarisant, Lana Del Reyisant, toute la partie en FM en fait de ce disque.
D'album.
Me déplaît totalement. Alors, elle avance, Sharon Van Etten, en nous disant qu'elle a voulu se rapprocher de Portishead, qu'elle est influencée par Suicide, par Nick Cave. Moi, j'y ai pas trouvé ça dans les parties réussies.
Vous êtes sûr qu'on parle du même?
Je vous assure. Moi, dans les parties réussies, c'est-à-dire d'autres titres comme Memorial Day, par exemple, avec des voix lointaines, très tordues, des murmures sombres, Come Back Kid, qui est un tube instantané, I Told You Everything aussi. J'y ai entendu du Chromatics, j'ai entendu du The Knife plutôt. En fait, cette veine-là, ça serait tout à fait contemporaine, enfin précédant tout juste.
Plus David Lynch, du coup.
Et plus David Lynch, totalement.
Elle faisait partie des guests des génériques fins de Twin Peaks, Return.
Et c'est très étonnant, je trouve, d'être à la fois deux personnes possibles à l'intérieur d'un même disque, c'est-à-dire quelque chose qui pour moi ne m'intéresse pas, où j'ai l'impression d'entendre un bruit de fond d'une radio, je serais en train de traverser n'importe quel paysage américain, et puis j'entendrais derrière Sharon Van Etten, et puis tout d'un coup des choses très viscérales qui m'ont touchée beaucoup plus. Et finalement, elle a l'air de le dire d'ailleurs à la fin, qu'elle se cherche, qu'elle voudrait se libérer, se trouver elle-même, et je crois que c'est justement dans ce titre qu'on sent qu'elle y est presque. Donc c'est très ambivalent, je trouve, d'arriver à produire quelque chose, je trouve, un petit peu lourd, épais, comme une grosse paire de Santiago, et en même temps des espèces de chaussons de cendrillon cristallin. Donc je suis très partagée, et je trouve aussi qu'il y a une surcharge de production. Je ne sais pas si ça lui est venu après, s'il a fallu un petit peu comme ça rendre les choses plus rutilantes, faire briller la mécanique, mais je pense que c'est absolument pas nécessaire, et qu'elle brille bien mieux dans les morceaux épurés. Donc déception sur Sharon Van Etten, en plus précédée de louanges, qui est toujours pas évident quand ensuite on doit se confronter à la réalité du disque. Après, pochette exceptionnelle. À signaler, un bordel dans une chambre d'enfant, avec un enfant qui est enfermé dans une boîte en plastique, un autre qui joue sur le sol, et tout ça est très saturé. Ça m'a donné envie d'appeler la mère du rangement, Marie Kondo.
Oui. C'est un peu comme la production du disque, cette pochette.
Voilà, exactement. Il faudrait ranger un petit peu la chambre du disque. Il faut le condoiser.
Bon, peut-être pas. Christophe Comte.
Alors moi, j'ai détesté cette pochette. La pochette, justement, parce que Sharon Van Etten nous avait habitués à des pochettes où elle était très, très jolie, stylée. Et puis là, on tombe sur un espèce de truc qui est assez moche. Mais bon, en même temps, qui a sa signification. On sent que la maternité, tout ça, l'a un peu perturbée, qu'il y en a plein partout. Et qu'en plus, elle dit « remind me later ». Donc, c'est vraiment la procrastination, après, sur le disque, moi, j'étais assez séduit parce que, justement, les précédents m'avaient un peu laissé à côté de la route, avec toujours cette impression de tenir une songwriterice à la Patti Smith, mais tellement... tellement évidente comme ça, avec ses belles pochettes justement, ses belles chansons un peu folk, matinée de rock, mais avec pas vraiment de caractère. Je serais incapable de citer un titre de sa discographie. Je crois qu'elle a fait 4 albums avant celui-là. Et puis là, d'un coup, l'incursion de l'électronique, on sent qu'elle a essayé de jouer avec autre chose que ses instruments habituels. D'un coup, donne par moment des choses de production, des idées qui viennent perturber justement son petit havre bien rangé, un peu comme la chambre. Hein, et ça, je trouve pas que toutes les chansons sont exceptionnelles. Je trouve même qu'il y en a certaines qui valent pas vraiment le détour, mais je trouve qu'il y en a vraiment quelques-unes, et dont celle-là, moi, que j'aime bien, qui possède quand même une force, une intention, qui raconte des choses aussi qui sont pas totalement dénuées d'intérêt. Et en plus, je trouve, avec une interprétation plus incarnée, plus offensive que précédemment, avec une conviction qui pourrait faire d'elle finalement la Patti Smith 2.0 qu'on attend depuis si longtemps. Non, bah,
Mathilde Sérène, on va pas fabriquer des Patti Smith toutes les semaines.
Il y en a pas tant que ça, il y en a pas eu tant que
on
ça.
On attend vraiment besoin d'une nouvelle Patti Smith aussi.
Non. On attend le Just Kids de Sharon Van Etten. Hein.
Ouais.
Just 17. Bon, hein.
Pour l'instant, elle prend beaucoup de place, Patti Smith, donc.
Ouais, mais elle apprend pas tellement musicalement.
Musicalement,
on peut pas dire que. Voilà, ça fait un... Donc voilà, non, moi, sans faire d'analogie ni rien du tout. En tout cas, je trouve que c'est un personnage qui prend du corps avec ce disque et je trouve que c'est plutôt un bon signe parce que sinon, je pense que moi, je l'aurais vraiment perdu de vue. Et là, d'un coup, elle m'a un peu rattrapé.
Pascal, une pot de vin.
Elle s'en fout complètement. Mais
elle a bien envoyé un message.
Pas,
bon anniversaire.
Elle m'a dit de souhaiter un bon anniversaire. Elle prépare une version d'Happy Birthday, je crois, pour le 6e album. Pascaline.
Non, moi aussi, je suis d'accord avec Christophe. C'est une artiste qui m'avait un peu laissé. J'avais un peu oublié. Un peu. Elle s'était rappelée à mon bon souvenir, notamment dans The Away, justement, cette série Netflix où elle jouait un petit rôle avec ses chorégraphies mystico-chelou. Et là, ça reste de la folk hein, dans la structure, dans la mélodie. Avec ces habillages, effectivement, cette production électronique, ces synthés, qui pourraient être super lourds. Mais moi, je trouve que miraculeusement, ils sont pas trop lourds parce qu'il y a une utilisation des synthés qui est faite comme de guitare. En fait, ils restent très acérés, très ombrageux, un peu menaçants comme ça. Et je trouve que, effectivement, ça lui donne de l'épaisseur, comme disait Christophe, et ça me la rend davantage intéressante. Surtout parce que ça correspond bien au propos du disque, où effectivement, elle retourne sur son passé, elle parle de choses qu'elle a vécues. Dans ce titre qu'on vient d'entendre, la 70s, on a l'impression qu'elle s'adresse à l'adolescente qu'elle était. Il y a cette espèce de collision comme ça du passé, du présent et du futur, Remind Me Tomorrow, qui est intéressant. Et je pense que à 37 ans, enfin l'âge qu'elle a, la maternité, c'est peut-être à ce moment-là qu'on se pose ces questions-là. Et Sharon Van Etten,
on parle toujours de maternité, pas de paternité. J'ai l'impression comme c'était encore plus un événement à chaque fois.
Mais elle
le dit. C'est elle qui en parle.
C'est elle qui en parle en fait. C'est ça, elle dans l'argumentaire qu'on a reçu.
Il y a quand même pas mal d'artistes hommes qui parlent de paternité aussi, ouais. Vraiment.
Mais après, bon, moi, c'est pas un côté qui me touche plus particulièrement. Moi, ce qui me touche, c'est juste l'interrogation sur soi, en fait, telle qu'elle peut être quand on arrive à l'approche de la quarantaine. Et Sharon Van Etten, elle, parallèlement à la musique, elle fait des études de psychologie. Et je pense qu'elle sait mieux que personne que c'est un combat, en fait. Le fait de savoir se connaître, c'est un combat qui ne s'arrête jamais. Et ce côté combatif, torturé, et genre ce combat qui ne cesse jamais sur toute une vie, c'est ça qu'on entend dans ces chansons très, très, très menaçantes et très produites. Donc, ce 17 que moi je trouve très Springsteenesque.
Oui, c'est sa limite.
Et ben moi, ça me plaît. Et ce Comeback Kid aussi qui est comme ça. Et voilà, moi, ce côté très, très combatif, très ombrageux, très droit dans ses bottes et où il y a quand même une souffrance qui reste, ben je préfère à cette souffrance intime. Ce combat, je préfère le voir exprimé comme ça avec des guitares et des expérimentations, on peut parler de ça dans son cas, plutôt que encore une fois une folk larmoyante sur une guitare sèche.
Ah oui, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Moi, c'est vraiment un album que j'aime beaucoup, avec, c'est vrai, des morceaux un peu plus faibles, mais j'aime bien son côté un peu urgent, un peu sale aussi. Springsteen étant la limite sur ce type de morceau. Moi, je pense plus à Chrissie Hynde qu'à Patti Smith. Mais si Chrissie Hynde avait bien vieilli, on va dire. Quelque chose comme ça, d'une énergie aussi rock. Il y a d'autres morceaux que j'aurais aimé qu'on entende, comme No One's Easy to Love, qui est une merveille, qui va grossissant comme ça. Donc justement, c'est pour ce morceau-là, il y a une production qui est à la hauteur parce que ça génère une sorte de décollage. Ou il y a Malibu. Vous savez, comme j'aime le Malibu, qui est une sorte de slow parfait. Et j'aime beaucoup, moi, les slows, et on n'en a pas assez, les slows. C'est comme les chansons d'anniversaire. On manque des vrais, grands, bons slows. Et je trouve que Sharon Etten, elle a cette classe-là. Mathilde, vous voulez dire un mot ?
Ah, moi, j'ai peur que ça me rappelle de mauvais souvenirs.
Les slows ?
À la fois le Malibu et la chanson Malibu de Sharon Van Etten. Malibu Ananas, quoi, une boisson qui n'existe quasiment plus.
Allez savoir.
Moi, je conseille, avant l'écoute de ce titre, un tout petit peu de le médicament des diabétiques, un petit peu d'insuline.
C'est horrible. Un peu chargé en Christophe, le mot de la fin pour vous, dont on fête l'anniversaire, on le rappelle à celles et ceux qui auraient raté le début de l'émission.
Alors, sur Charlotte.
Ah, vous l'avez déjà commencé à le fêter, cet anniversaire.
Non, bah, rien à rajouter, sinon je crois qu'effectivement, c'est son disque le plus charmant et en même temps, comme c'est l'expression à la mode, le plus bizarre. Et je trouve ça pas mal quand un artiste arrive à faire un disque à la fois présentable et en même temps assez, dépenaillé, peut-être, quelque chose comme ça à l'intérieur.
Remind Me Tomorrow de Sharon Van Etten chez Piazza France et Jacques Jaguar, qu'elle sera en concert le 30 mars à Bruxelles et le 1er avril à Paris, à la Maroquinerie. Et avant de conclure tout à fait cette émission, le jeu de la dispute, Sarah Dion, que le monde entier nous envie, est là pour nous rappeler d'abord la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse, Sarah.
La question était: quel est le nom de la dernière dynastie iranienne qui a précédé l'avènement de la République islamique? Et la réponse est la dynastie Pahlavi.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour le spectacle Névrotique Hôtel de Michel Faux. Des places à gagner pour une représentation qui aura lieu à la Criée, Théâtre National de Marseille, samedi 26 janvier à 20h dans le cadre de la journée Genre et Transgenre. Quelle est la question, Sarah?
De qui Michel Faux a-t-il repris une chanson grimée en cantatrice lors d'une cérémonie des Molières?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet à la page de la dispute, site internet franceculture.fr. On peut réécouter l'émission, s'abonner au podcast. Demain, 19h, dispute art plastique avec Corinne Rondeau, Frédéric Bonnet, Stéphane Correard. Nous parlerons de l'exposition Fernand Knopf au Petit Palais, celle de Mircea Cantor au Musée de la Chasse et de la Nature, de Où est la maison de mon ami, la maison des arts de Malakoff sur la scène artistique syrienne. Et puis un coup de cœur de Frédéric Bonnet pour la triennale Asie-Pacifique à Brisbane.